Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Thibaut de Corta, notre chroniqueur de bande dessinée. Il va nous parler de Mégantic de Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quesnel et Blackout de Louis Fong et Hugues Micol. Donc il nous en parle dans un instant. En deuxième partie d'émission, on va recevoir l'artiste, on va parler musique avec Martin Valois et à l'approche de Noël, entendre sa nouvelle chanson Noël Noël, donc il sera avec nous en deuxième partie d'émission. Pour l'instant, on part en musique avec Erad qui nous chante Mamei. Mamei, pardon.
Par un beau samedi matin, à la thé à la main, au café du coin, je me fais offrir un beau sourire d'une si belle créature. La journée vient de basculer, l'humeur est à son apogée, je vibre de la tête aux pieds, j'ai du mal à me consoler. Salut, bonjour, un coucou beauté, j'aimerais causer si vous me permettez. Depuis tantôt que t'en regardes-tu, ton sourire n'est jamais vu. Je fais pas le poids, mais ça je sais, et je vous en prie, restez à mes côtés. Je vous moins nous dodo, tu vois bien, je perds mes mots. Pardonne-moi si je suis gauche et par moments je mérite une taloche. Je suis direct, mat et sec, et oui, t'imagines, je suis un mec.
Voilà, donc maintenant nous sommes avec Thibaut de Corta. Bonjour Thibaut.
Bonjour Arlette.
Alors, on va parler de Mégantic, de ouais, Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quesnel, entre autres.
Oui, absolument, entre autres. Oui, ben alors c'est un livre que je me suis procuré. En fait, c'est pas vrai du tout, on me l'a prêté. C'est Maurice qui me l'a prêté. C'est un livre que j'ai trouvé fantastique, évidemment, parce que, comme on sait, il y a un renouveau. En fait, peut-être pas un renouveau, on pourrait dire que c'est une continuité dans la bande dessinée québécoise. D'auteurs fabuleux là, qui n'ont rien à envier à ce qui se passe ailleurs. Et entre autres, Christian Quesnel, qui est un homme qui dessine plus vite que son ombre, on dirait, parce qu'il a aussi participé à un livre qui s'appelle « René Lévesque, quelque chose comme un grand homme », écrit par Marc Tessier et illustré par plein d'auteurs québécois. Donc.
On en parlera début janvier avec toi.
Ben voilà, exactement. Alors pour l'instant, on parle des Mégantiques. Alors c'est pas une nouveauté, mais ça vaut la peine d'en parler parce que c'est un drame qui n'est toujours pas résolu, en fait, après tant d'années. parce que tout le monde se relance la balle, quoi, en fait, que ce soit la compagnie de train, que ce soit le gouvernement. C'est assez scandaleux, en fait, comme histoire, parce que, voilà, c'est pas réglé. Mais je vais me permettre de vous lire le quatrième de couverture, un petit extrait, là. Alors, il y a des hommes, mon enfant, qui sèment les ruines et la peine sans même un frisson de gêne. Leur ombre s'est posée sur notre petite ville et le lac a gelé malgré l'été. Ils ignoraient ton existence, ta vie, ton nom. Ils l'ignorent sans doute encore. Te souviens-tu du choc? Alors, ainsi s'adresse une vieille dame et une petite fille pour lui raconter la tragédie du 6 juillet 2013 au lac Mégantic. Alors, je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé. Il y a même eu un scandale à un moment donné parce qu'il y a des producteurs étrangers, je ne sais pas si c'est américain ou quoi, qui ont inclus une scène dans un film catastrophe, une scène réelle de l'explosion.
Et
évidemment,
ah oui?
Ça a créé un, ouais, ça a créé un tollé. Ça a été retiré. Alors, je peux pas te résumer en 2 secondes le livre. Il faut absolument se le procurer. C'est aux éditions Éco-Société. C'est un livre qui fait avec beaucoup de rigueur au niveau documentation. Et franchement, alors, c'est extraordinaire. Oui, vas-y.
Moi, je l'ai lu aussi.
Ouais.
Et j'ai trouvé qu'il était vraiment intense. Des moments, il y a très peu de texte et l'image qui l'accompagne donne une sensation comme si on en avait lu une page entière sur ce qui s'est passé.
Ouais. En fait, c'est ça, c'est une bande dessinée. Je précise que j'aime bien dire bande dessinée plutôt que récit graphique, parce que moi, je viens de la bande dessinée, et le récit graphique, c'est pour ceux qui ont peur de passer pour des enfants. Donc, donc cette bande dessinée est extraordinaire parce qu'elle mélange graphiquement plusieurs styles. Alors, il y a un style de base assez réaliste, en fait, mais il y a des passages abstraits, des passages impressionnistes pour essayer justement de rendre l'émotion, parce que les chiffres et tout ça, bien que ça soit scandaleux, tout ça, c'est bien que ce qu'on mette en avant certains passages, là, puis aussi pour faire ressentir ce qu'ont ressenti les gens à Lac Mégantic, en fait. Et on se rend compte de ce que la compagnie, le chemin de fer, a laissé passer, parce que si tu te rappelles du passage, parce que en fait, normalement, bon, ils ont quoi? Ils ont 70 wagons, je pense, et il faut qu'ils serrent les freins de 10% de ces wagons, ce qui a été fait, sauf qu'il y avait un frein hydraulique à l'avant. C'est le premier incendie, en fait, qui était banal, qui était un petit incendie bénin, mais c'est lui qui est la cause de tout, en fait, de ce qui s'est passé en cascade après, parce que, étant donné que ce frein-là a brûlé, il n'était plus fonctionnel, donc quand il y a eu une surcharge quoi, de poids qui était un peu en pente, ben, les autres freins ont tous lâché un après l'autre, et le train est lamentablement tombé. Et alors, il faut savoir, pour les gens qui ne l'ont pas lu, c'est que les trains passent la frontière avec des certificats. Et pour qu'un train passe avec un certificat normal, il faut qu'il y ait tel genre de produit dans les citernes. Or, ce qu'on apprend, en fait, c'est que le certificat a été falsifié parce qu'il y avait des produits dangereux dedans, et on a fait comme si c'était des produits non inflammables. Et en fait, ça, c'est le premier crime, c'est d'avoir laissé passer ces wagons-là, qui étaient hautement dangereux. Et sinon, ben voilà, la suite, on la connaît, quoi.
Parce que c'était aussi, notre invité Martin Valois est là, alors on le salue et puis il te prend en route. Donc on est avec notre chroniqueur Thibault de Corta qui parle de bande dessinée et qui parle de l'histoire de Mégantic, la bande dessinée qui a été faite, qui est absolument magnifique, magistrale.
Ah, oui.
Et justement, à travers ça, quand on voit à quel point, qui semblerait bien net qu'ils ont été prévenus, mais quand arrive le scandale, on met tout sur la faute du pauvre gars qui conduisait.
C'est ça. C'est quand même sorti finalement, quand même.
Oui, mais c'est quand même incroyable. Il est passé par des moments de il y a de quoi se suicider, quoi.
Mais tu sais, ça c'est l'histoire de l'Amérique, hein, mais parce que je sais pas comment ça se passe en Europe, mais en Amérique, c'est clair que les chemins de fer, les compagnies de chemin de fer ne rendent de compte à personne. Non seulement ça, mais le fédéral leur cède le territoire. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vas sur une voie ferrée, c'est pas la police provinciale ou fédérale qui va t'arrêter, c'est la police de la compagnie de chemin de fer. Ils sont autonomes, là. C'est pourquoi? Parce que c'est supposément les bâtisseurs d'Amérique. Alors après, comment ça s'est fait, ça, il y aurait long à dire, là. Mais donc le résultat est pas étonnant de cette histoire-là qui veulent s'en laver les mains à tout prix parce que eux dans le fond ils s'en foutent royalement là.
Mais c'est comme si quand on voit sur les dessins donc fait l'appel oui d'accord mais on va quand même pouvoir passer chacun se rejette la patate chaude, j'ai envie de dire, et puis jusqu'au moment où il arrive vraiment quelque chose, et puis là, bah, c'est pas moi, si j'avais su, évidemment, j'aurais fait quelque chose. Ce qui donne envie, quand tu lis cette bande dessinée, d'être devant eux et de leur mettre des grands coups de poing dans la tête.
C'est ça. Alors, comme tu viens de le dire...
enfin, pour moi, en ce qui me concerne.
On peut pas être devant... ils se protègent tellement, ils sont tellement protégés légalement, ces gens-là, en fait, qu'ils peuvent faire à peu près n'importe quoi, en fait. Parce que, dû au fait que... comment on appelle ça, un droit acquis, quoi, sur la mainmise d'un certain territoire. Pourquoi? Parce que ils sont essentiels à l'économie.
C'est ça.
Et ça, c'est toujours ça le grand truc, là. Oui, voilà.
Et pour l'aide, alors que l'aide s'est faite immédiatement pour les gens qui étaient autour et puis ceux qui venaient les voir, l'aide au gouvernement, résoudre cette histoire, ça fait quand même... Attends, on arrive en 2022, ça s'est passé en 2013.
Oui. C'est ça, mais c'est une patate chaude pour eux, parce que comme je te dis, ils ont des droits acquis, les compagnies de chemin de fer. Et puis, non seulement ça, mais il me semble que la voie de contournement n'est toujours pas faite.
Non.
Détrompez-moi, là, mais...
je crois pas non plus.
Parce que la vraie raison, là, je la connais pas. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est que ces gens-là, probablement que c'est pas dans leur intérêt. Au-delà de ça, est-ce que les gens de Lac Mégantic devraient faire plus pression, engager des avocats de calibre?
Je sais pas.
Pas d'idée, hein. Mais
ça méritait un livre comme ça. Il faut
oui,
le dire.
Oui, absolument, que vous pouvez trouver partout, évidemment.
Voilà.
Donc, je rappelle, Lac Mégantic, non, du moins Mégantic, un train dans la nuit, de Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quesnel, aux éditions Éco-Société.
Bon, alors avant qu'on attaque la deuxième bande dessinée, on part en musique, et là, c'est toi, Thibaut de Cortin. Alors, on écoute la chanson et on en parle dans un instant. À tout de suite.
Comme un chien, ma queue balance, comme un chien. comme un chien je pars en chasse, comme un chien je ris en coin, comme un chien je suis fidèle, comme un chien je me retiens pour mieux marquer mon territoire, comme un chien je cours partout, comme un chien je ris en coin, sauf que moi.
Alors, Thibaut de Corta, c'est toi que nous avons entendu chanter comme un chien.
Absolument,
bravo,
oui.
Félicitations.
Merci, merci, merci.
Premier single alors, sorti d'un futur album à venir. Voilà, c'est tout.
Voilà, exactement, oui. Ça va être un peu différé, voilà, mais je cherchais le mot, parce qu'évidemment, tous les événements et tout ça, et en plus, il y a un engouement pour le vinyle en ce moment, et donc pour l'instant, je sors des simples, comme on dit en français, des singles.
D'accord.
Tout au long de 2022, et puis après, on verra pour le vinyle.
Ok.
Là,
alors,
deuxième
bande dessinée. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas lue.
Ça s'appelle Blackout. C'est de Lou Weifang et Hugues Micol. Alors, de quoi ça parle? Ça parle ni plus ni moins de l'histoire des Noirs à travers le cinéma hollywoodien. Et c'est préfacé par un certain Raoul Peck. Et alors, si tu veux savoir qui est Raoul Peck, c'est assez facile. En fait, tu tapes sur dans Google et tu vas voir qu'en fait, je ne sais pas si tu as vu le film « I'm Not Your Negro ».
Est-ce que ça... Oui, ça me dit quelque chose. En français, c'était quoi le titre? J'ai dû le voir avec un titre francisé. Oui, ben
je
oui. La traduction est exacte ou c'était une autre traduction, non?
Non, j'y vais comme ça.
D'accord.
Mais donc, c'est lui qui a fait ça. Et alors, ce film-là, I'm Not Your Negro, met en scène un gars qui s'appelle... James Baldwin, qui était un intellectuel américain noir, donc. Qui a vécu longtemps à Paris. Et là, il t'explique là-dedans s'il y avait encore des doutes ce qu'est le racisme systémique. Et voilà, je vous suggère fortement de regarder ce film « I'm Not Your Negro ». Mais aujourd'hui, on parle plutôt donc de Blackout, préfacé donc par Raoul Peck. Alors, ça parle d'un gars dont le nom, c'est Maximus O.N.Z. Wildhearth.
Je préfère que ce soit toi qui le prononce.
Hein?
Je préfère quand c'est toi qui le prononce.
Pourquoi?
Parce que je ne suis pas sûr d'y arriver.
Ah, d'accord. Alors, mais qu'on l'a rebaptisé Maximus Wilde, c'est plus facile comme ça, non?
Mais là, c'est plus facile.
Ouais. Alors, lui, il a plusieurs origines, mexicaines, indiennes, noires, évidemment. Et lui, en fait, ce qu'on raconte au travers de ce livre-là, qui est absolument extraordinaire, en noir et blanc, là, on raconte la place que Hollywood a laissé aux Noirs, et pas seulement aux Noirs d'ailleurs, aux gens qui n'étaient pas blancs en fait, dans le cinéma hollywoodien.
Oui.
Et ce qui est extraordinaire avec l'histoire de ce gars-là, c'est qu'il a joué avec les plus grands, il a tourné avec les plus grands réalisateurs du cinéma américain, et pourtant, il n'y a quasiment plus aucune trace de lui nulle part. On a enlevé les séquences où il était. C'est assez fou là. Ouais. Pour toutes sortes de raisons, parce qu'entre autres, il draguait un peu les nanas et tout ça. Bon, mais c'est ça, donc...
Il ne devait pas être le seul?
Non, mais en tant que noir, tu vois, parce qu'en fait, aussi, lui, ça part quasiment du début du 20e siècle, en fait, quasiment du début du cinéma, et il passe au travers des blackface, il passe au travers de Naissance d'une nation, il passe au travers de tout un... En fait, ce qui t'explique dans ce livre, c'est que Hollywood, c'est une formidable machine à rêver, mais qui est très, très tendancieuse, quoi, si tu veux, très, très dirigée pour un monde blanc, quoi, ni plus ni moins.
Ah oui, tout à fait, parce que je me doute qu'à l'époque où il a commencé, il devait jouer des rôles d'esclaves, de serviteurs, de choses comme ça.
Ben, c'est ça, exactement. Au début, ils font jouer des rôles de gugus, quoi, d'esclaves, comme par exemple dans Autant en emporte le vent, je crois qu'il joue dedans. Mais petit à petit, il essaye de s'imposer pour avoir un premier rôle, et je crois pas qu'il l'ait jamais eu, en fait. Ou en tout cas, s'il l'a eu, il a été effacé.
Ah, ben dis donc.
Oui. Et alors, je te parle du dessin. C'est un dessin, parce que contrairement à Christian Quesnel et Mégantic, lui, c'est un style proche du caricatural, en fait. C'est un style qu'on pourrait comparer peut-être un tout petit peu à J.G., pour ceux qui connaissent, l'auteur de Jerry Spring, qui est aussi celui qui a inspiré
Gir,
Moebius, tout ça. C'est en noir et blanc, mais ça rajoute donc, parce que c'est très bien vu, étant donné que c'est l'histoire d'un noir. Et c'est ça, en fait, ce qui te montre, c'est comment les inégalités américaines ne transparaissent pas à l'écran. Et comment, en fait, on a réussi à faire en sorte que les Indiens deviennent des méchants, alors qu'en fait, les Indiens, on leur a tombé dessus, hein, ni plus ni moins, quoi.
Oui, l'histoire n'était pas telle qu'on les voyait dans les films non plus.
C'est et ça. En fait, le cinéma américain, c'est la plus grosse machine de propagande au monde. Hein.
Oui. Oui, et on s'en sert. Et on s'en sert encore. Mais bref, on ne va pas discuter là-dessus.
Tout à fait. Écoute, c'est tellement vrai, là. Parce que, bon, là, je vais parler d'un film qui est probablement plus anglais, quoiqu'il doit être plus international que le dernier de James Bond. C'est tellement, comment je dirais, opportuniste. Ça joue sur la peur actuelle du virus. Ça joue sur les peurs du moment, si tu veux.
Évidemment.
En essayant. Et ça, c'est un truc que je me permets de dire en parallèle. Ce que je trouve très grave aujourd'hui, c'est qu'on mélange allègrement fiction et réalité. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui viennent me dire des fois « Ah oui, mais ce film-là avait prévu ce qu'on vit. » Je leur rappelle aimablement que c'est un film de fiction. Mais ça, des gens ont quelquefois beaucoup de mal à faire la part des choses entre... Alors, je veux bien que la réalité n'est pas jojo. Je veux bien que la réalité, des fois, il y a de quoi se poser des questions. Mais il ne faut jamais oublier qu'un film de fiction, c'est un film de fiction. Alors que moi, les deux livres dont je vous parle aujourd'hui, ce sont des histoires vraies.
Oui, qui sont vraiment, vraiment passées. Alors, pour Mégantic, ça, oui. On s'en rappelle encore, malgré le temps qui passe.
Avant que ce soit fini, je voudrais dire que Blackout, c'est chez Futuropolis. Et je veux seulement dire que Futuropolis, vous pouvez quasiment acheter les yeux fermés. Quand c'est cette maison d'édition qui édite, allez-y, ils ne sortent que des trucs incroyables, d'une qualité exemplaire. Tout vaut la peine.
Et alors, juste parce qu'il nous reste une ou deux minutes, comment ça se fait qu'il y ait une bande dessinée à son qui parle de cet homme-là, puisqu'il a été plus ou moins effacé des...
Oui, je pense que les deux
auteurs,
créateurs, je crois qu'ils voulaient réparer une injustice, tout simplement. Je ne sais pas comment ils sont tombés dessus en réalité.
Très bien, c'est une bonne chose.
Mais son truc à lui, ça, en fait, il s'appelait l'acteur aux mille visages, si vous voulez faire une recherche. Et donc, en fait, non seulement ça, mais c'est Cary Grant qui l'a pris sous son aile quand il avait 15 ans. Et pendant les 40 années qu'on suivit, il est devenu l'acteur aux mille visages. Et c'est donc un métis d'ascendance noire, chinoise et amérindienne.
Ah ben dis donc, le mélange devait être extraordinaire.
Oui, il paraît qu'il est très beau, que c'est un homme très beau.
Je te dirais ça si j'arrive à retrouver son image, mais je tape acteur au milieu du visage.
Je la trouve, je te l'envoie.
Voilà. Et ben, en tout cas, il revit à travers cette bande dessinée et je trouve ça fantastique.
Ah oui, est-ce que tu l'as vu ou non, pas du tout?
Non, j'ai pas vu du tout.
Ok, écoute, je vais t'envoyer une image de la couverture, si ça peut t'aider. Et puis, je vais, d'ici 5 minutes, je t'envoie un lien pour le personnage.
Voilà, pour regarder un petit peu qui il était et pour se rendre compte qu'il ne doit pas être le seul, hein, certainement, à avoir été effacé de cette époque-là.
Non, mais justement, parce qu'il parle justement de la rencontre d'autres acteurs comme Sidney Poitier, comme les premiers acteurs qu'on lui a
droit. Sidney Poitier, on s'en rappelle encore? Il y a des quand même.
C'était devine qui vient dîner ce soir, entre
voilà, autres. Voilà, c'est ça. Quelque chose comme ça, oui.
Tu te rappelles de ce film?
Oui, qui avait été reconnu, qui avait réussi à avoir un premier rôle. C'était même peut-être le premier. Hein?
Qui traite exactement de ce sujet-là, parce qu'en fait, Sidney Poitier joue le rôle d'un docteur, en fait, mais reçu dans une famille blanche qui le regarde un peu de haut, quoi.
Voilà, c'est ça. Et ça existe encore. Bon, enfin, bref, sur ce, Thibault, merci beaucoup.
Merci à toi, Arlette.
On se retrouve... écoute, passe de belles fêtes. Oui, c'est vrai.
Toi aussi.
Et
à
puis, on se retrouve l'année prochaine. Merci.
Très bien. Au revoir.
On part avec Guy Bélanger, Carving the Wind. voilà, donc on a fini la première demi-heure. Et maintenant, Martin Valois, ça va être à toi dans la deuxième demi-heure après la pause. Prépare-toi d'abord parce qu'il va nous jouer quelque chose. On va entendre sa chanson de Noël. Il va aussi nous jouer quelque chose qui n'était peut-être pas prévu. Mais j'ai demandé sans dire tu peux me répondre non. Non, tu peux que me répondre oui. À tout de suite avec Martin Valois. À tout de suite, restez avec nous.
Faramineux avec Arlette Farah.
Les sapins sont allumés, la neige est enfin tombée, le temps des fêtes sera blanc et je retrouve mon cœur d'enfant. Les cadeaux sont emballés, les étoiles sont alignées, on savoure les paysages et on éclaire.
Et c'est à ce moment-là, si j'étais assez souple pour le faire, que je saute en l'air et que je tombe sur mes pieds. Martin Valois, re-bienvenue.
Ouais,
écoute-moi,
bonsoir.
Noël, Noël, c'est une chanson de Noël. D'abord, pourquoi une chanson de Noël?
En fait, c'est ma troisième chanson de Noël,
oui,
hein, que je fais.
C'est
puis,
pour ça.
Je sais pas, j'aime l'aspect de la récurrence, la chanson de Noël. Donc, ça revient chaque année. Et celle-ci particulièrement avait une signification parce que il y a 3 ans, en fait, je suis allé chez Moisson Outaouais porter des denrées alimentaires. Et le monsieur qui m'avait reçu sur place m'avait dit une parole qui m'a un petit peu là, frappé, mais jeté à terre. Il m'avait dit, vous savez, monsieur, c'est gentil de votre part, mais les gens ont faim à l'année.
Donc, oui, c'est vrai.
Il disait, les Québécois donnent beaucoup en décembre, mais au mois de juin, au mois de juillet, on a des pénuries alimentaires. Puis lorsque j'étais parti, lorsque j'avais quitté, je me disais, ben, c'est, il a tout à fait raison. Et la chanson de Noël, l'idée de, d'aller vers ça, ben, il y avait, on va en parler tout à l'heure, là, pour cette chanson-là, je me suis dit, si je pouvais écrire une chanson puis donner tous mes droits d'auteur à Moisson Outaouais, la perception des droits d'auteur se fait souvent vers 6 à 8 mois après qu'elle est jouée.
Ah oui.
Donc, directement durant l'été.
Oui.
Et je me suis dit, ben, ça pourrait être une belle façon de contribuer. C'est Noël à l'année, entre guillemets. Oui. Donc, c'est l'esprit de Noël avec le côté festif. Donc, l'idée est venue de ce moment-là. Et l'an passé, j'ai été occupé à écrire une autre chanson de Noël pour un groupe qui s'appelle Los Pedros Chimicos.
Oui, dont on parlera tout à l'heure.
Qui s'appelle le Noël d'Armand.
Oui.
Donc, j'avais concentré mes énergies sur le Noël d'Armand. Et cette année, ben, je me dis, c'est le temps, dans cette période trouble qu'on vit depuis presque 24 mois, où est-ce qu'on sent beaucoup de tension, moins d'entraide. En tout cas, c'est ma perception. Je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose pour un petit peu alléger l'atmosphère dans tous les sens du terme.
C'est un beau geste, en tout cas. Merci pour eux. Et puis, je trouve ça très chouette. En même temps, tu as raison, parce que la peur qu'on nous a mis de d'approcher l'autre, c'est comme si on n'osait plus donner.
Bien,
N'ose plus toucher une main pour lui mettre une pièce ou pour faire quelque chose ou avoir un geste, ou c'est quand même fou.
Ouais, ouais.
J'ai vu dans le début, plus maintenant, parce que les gens ont commencé à comprendre ce qu'il y avait entre ce qui nous arrivait et l'exagération qu'on en faisait à côté. Mais j'ai vu tout au début, dans un autobus, une dame âgée qui rate un peu la marche. Je vais pour la rattraper. Et là, il y a quelqu'un qui me regarde dans le sens. On la touche. Ah oui, mais bien sûr, laisse-la tomber par terre. Vas-y. Ouais,
absolument. Mais c'est effectivement, on a un petit peu aseptisé les relations humaines.
Et ça revient là maintenant. Je me rends compte que ça change les choses. Mais la première année a été vraiment très intense là-dessus.
Absolument, absolument. Mais je ne sais pas, c'était plus un courant général qui a amené à cette prise de conscience-là, en me disant, à un moment donné, il faut s'entraider, bien sûr, mais... La perte de ce contact-là, je l'ai trouvée très marquante. Moi, je travaille, je pense que je travaille dans le milieu dentaire, et puis c'était encore assez incroyable. Lorsqu'on a recommencé à travailler le 1er juin 2020, on avait, la visière, les casques, on avait l'air de des cosmonautes.
Oui.
Et puis les enfants avaient même peur. Là, donc, je ne sais pas. Je suis content que la situation... Aujourd'hui, c'est un peu paradoxal de dire que la situation s'améliore avec les nouvelles qui ont sorti hier, puis avec, le variant Omicron. Mais on sait que ça va suivre, de toute façon, le cycle probablement d'influenza et de d'autres grippes. Donc, probablement en mars-avril, on pourra avoir encore des discours plus optimistes. Mais dans la période des fêtes, j'espère en tout cas que cette chanson-là va atteindre les gens, mais surtout... il y a des façons de contribuer pour les gens qui nous écoutent. La première façon, c'est simplement d'écouter la chanson à travers les plateformes, quelles qu'elles soient. Donc, plus elle est écoutée, plus il y aura une perception de droit d'auteur dessus. Il y a aussi des stations de radio, évidemment, qui font leur part. Puis, si les gens veulent contribuer directement, ils peuvent acheter la chanson sur les plateformes numériques comme iTunes et autres. Là. Donc, c'est trois façons de faire, qui, surtout celle de l'écouter, de la mettre sur vos playlists favorites, je pense que ça peut se faire très facilement et ça va aider en bout de ligne des gens. Moi, je ne conçois pas qu'en 2021, on puisse penser encore qu'il y a des gens qui ont de la misère à avoir un repas par jour ou deux repas par jour. Donc, si on peut aider, on le fait.
Mais regarde ce qui s'était passé en France pour le Resto du Cœur.
Ouais.
Coluche, il pensait faire ça pour 2 ans.
Et c'est oui, absolument.
Et tu te retrouves 30 ans après, t'en fais encore. Donc, c'est vraiment... on s'en rend pas compte parce que... Je sais pas, peut-être parce qu'il y a des gens qui font la manche dans la rue, puis il y en a d'autres qui ont besoin puis qui la font pas. Et puis, on se rend pas compte que ces gens-là, ils vont chercher à des endroits où on peut les aider. Et on peut aider de toutes parts. Et ta façon à toi est une très jolie façon.
Ah,
merci pour ça.
Mais c'est gentil, merci.
Et puis, c'est vrai qu'il faut l'acheter, l'écouter, en tout cas un maximum. Je ne dis pas peut-être d'écouter la chanson de Noël jusqu'au mois de juin, mais là, on est dans les moments intenses où on peut l'écouter en intensif et faire quelque chose pour ça.
Oui, oui.
Et puis que chacun le fasse pour sa maison. Puis ce monsieur-là avait grandement raison de te dire oui. Parce que c'est vrai qu'on remarque une générosité plus intense au moment de Noël. Une culpabilité pour les cadeaux qu'on s'achète, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle existe.
Mais je pense aussi que ça n'a jamais été plus opportun que maintenant d'en parler parce qu'il y a une inflation galopante, grimpante, on la voit. Et pour les denrées alimentaires, faut se dire les vraies choses. Là. Absolument, il faut se dire les choses comme elles sont. Là. 25 % 30 % de plus sur une épicerie, c'est un lourd coût à absorber. Puis je me dis, bon, ben si ça peut être un petit apport, tant mieux, un grand apport, tant mieux. Mais faire une petite différence dans des petits gestes. Mais en même temps, il en demeure pas moins que c'est à l'année que ça dure. Et ça devrait effectivement, en tout cas, j'espère que ça fonctionnera à l'année pour cette perception-là de droit d'auteur.
Regarde, les personnes qui t'auront entendu et qui auront suivi ce que tu fais, ça sera toujours ça de prix, de plus, en plus de ce qui se fait d'habitude. Donc, encore une fois, merci pour ça.
Ça fait plaisir.
Projet.
Oui.
Des projets?
Ah, plein de projets, plein de projets. Lorsque la pandémie est arrivée, j'étais, en fait, quelques mois avant.
Oui.
J'étais en studio pour faire la suite de mon premier album qui s'appelle Nuperberg. Donc, le deuxième album va s'appeler, en fait, ce projet-là, qui est une musique complètement différente, qui s'appelle Nuperberg 2, Le Retour. Et puis, avec l'Orchestre métropolitain de Montréal, on avait beaucoup de grandes ambitions, là, et ça a été mis sur la glace. Donc, en 2022-23, je veux reprendre, terminer ce projet-là, parce que les chansons sont déjà toutes enregistrées, entre autres avec le pianiste de jazz, Tory Butler, qui était sur l'album. Mais entre les deux, il y a eu mon album Country, qui est sorti en septembre 2019. Je mentionnais tout à l'heure qu'on a eu le bonheur d'avoir une de nos chansons qui s'appelle Montagne russe. Qui
s'est qu'on entendra tout à l'heure à la fin de l'entrevue.
Qui s'est hissé en première position sur Stingray, Franco Country. Et par le fait même, toujours dans le but ultime d'alléger l'atmosphère, j'ai un petit peu fondé un groupe humoristique qui s'appelle Los Pedros Chimicos.
Et ils ont même créé une bière, madame, monsieur.
Et bon, on a sorti un premier album en 2020, donc c'est un collectif. Là. Il y a Polo, que tout le monde connaît, des Frères Achevel, qui en fait partie. Dominique Dagenais.
Oui, qui l'a reçu aussi déjà.
Il y avait Fred Beauchamp, qui faisait partie aussi du groupe original. Et ben, on a sorti un album de 5 chansons avec une chanson qui a joué dans les radios commerciales qui s'appelle « Je t'aime de même ». Encore là, tu sais, c'était uniquement pour, pourquoi pas faire de la chanson, mais une chanson légère, humoristique, et en profiter. Et le point culminant a été la chanson de Noël que je vous parlais tout à l'heure, là, qui est le Noël d'Armand. Et on a fait, et c'était suivi d'un projet l'été passé, en 2021, qui était le deuxième album de Los Pedros.
Avant que tu nous en parles, tu vas prendre ta guitare, Martin.
OK.
Puis tu vas nous faire un petit cadeau.
Oui.
Parce que tu m'as dit que ce que tu allais essayer de faire, et même s'il y a un petit couac parce que tu ne te rappelles pas quelque chose, on s'en fiche, au moins tu le lances. tu nous fais un extrait de quelque chose que tu... Que tu as... Hop, je vais y arriver.
Oui.
Que tu vas faire prochainement.
Oui, ben en fait, j'ai un album country qui va être lancé le 18 février. Et... L'album s'appelle Le Grand Détour. Et une de ces chansons-là qui est une.
Attends, je t'installe.
Oui. Et voilà.
Et une de ces chansons-là, c'est.
Et une de ces chansons parle. C'est une chanson qui a été écrite par Élie Rose et Étienne Dupuis-Cloutier qui m'a été proposée. Et, je suis tombé complètement sous les charmes.
Amoureux.
En fait, c'est. J'aurais aimé écrire ces paroles-là parce que je trouvais que c'était mon histoire. Lorsque je suis sorti de l'université, j'ai été allé auditionner au Festival de Granby en 93. Et il a fallu que je choisisse un peu. À l'époque, je sortais de l'université avec tous les dettes et ce que ça implique. Donc, j'ai choisi le travail et j'ai mis la carrière du musicien de côté.
Alors, on va t'écouter là-dedans. On va t'écouter là-dedans.
Et là, ben, écoutez, c'est bon. Je vous en fais un petit bout.
Allez, vas-y.
OK. J'entrais de la job, j'étais claqué. J'ai décidé de m'arrêter le temps de verre. Souvenir d'hier. Dans le temps, on jouait à chaque jeudi. Juste après la game de hockey. Maintenant, c'est rendu les soirées karaoké. Avec les boys, on rêvait gros. Dans ton auto, la radio. Ça faisait tomber les filles, mais c'est pas la musique qui paye les billes. J'ai rangé ma guitare, commencé l'université. Tant pis mes rêves de rockstar, tourne la page de mon passé.
mais c'est pas l'envie qui manque de pouvoir remonter cette planche. Tout laisser tomber, prendre le micro, passer le chapeau. Non, c'est pas l'envie qui manque. Et aujourd'hui, je travaille temps plein. J'ai pas de regrets, j'suis pas malheureux. J'aime ma routine, et c'est pour le mieux. Mais quand je repense aux vieilles années, à faire la route, à déconner, en deux spectacles, jouer à guichet fermé, avec les boys, on rêvait gros, d'entendre nos tunes à radio. Ça faisait tomber les filles, mais c'est pas musique qui paye les billes. J'ai rangé ma guitare, commencé l'université. Tant pis mes rêves de rockstar, la vie s'est faite pour avancer. Mais c'est pas l'envie qui manque de pouvoir remonter ses planches. Tout laisser tomber, prendre le micro, passer le chapeau. Non, c'est pas l'envie qui manque. Non, c'est pas l'envie qui manque. Non, c'est pas l'envie qui manque.
Merci beaucoup, Martin, merci beaucoup. Ça t'est déjà arrivé, toi, quand t'as commencé à chanter, de, justement, de passer le chapeau, d'être dans des endroits où c'était un petit peu difficile de,
oui,
de faire des prestations?
Oui, absolument. Il y a des histoires racontables, d'autres moins, mais oui, tout à fait. Je me souviens surtout d'un moment aujourd'hui, je ne pense plus que ce serait permis, mais dans le Vieux-Québec, moi, j'étais un gars de Québec, oui, puis... On se promenait avec nos guitares, puis lorsqu'on voyait un restaurant avec les gens avec les fenêtres ouvertes, on s'arrêtait, puis on chantait. Et là, les gens se retournaient, évidemment. Mais la musique, là, avant tout, j'ai toujours dit, moi, j'ai jamais été capable de la sortir de moi. Ça fait toujours partie de ma vie. Je l'ai éloignée pendant quelques années pour le travail, comme je mentionnais tout à l'heure, mais elle est revenue plus forte. Et pour moi, c'est une façon de vivre. Et je sais que tous nos amis artistes qui nous écoutent, les chanteurs, le savent très bien. C'est ça m'habite, tout simplement.
Puis ça manque le contact avec les gens. Tu sais, quand ils sont là, qu'ils t'applaudissent, qu'ils ont envie de t'entendre, qu'ils viennent te parler, c'est important, ça aussi, le lien.
Absolument, absolument. Il y a ce contact-là qui est important aussi, mais la réalité, c'est que... À l'époque, moi, lorsque j'ai fait le choix de me consacrer à la carrière que j'avais choisie à ce moment-là, j'avais fait le pari que je pourrais étouffer le goût en moi de faire de la musique,
Tu rigoles?
Oui, c'est ça, exactement. Mais là, c'est plus l'inverse qui se produit actuellement parce que je vous ai parlé tout à l'heure du projet Los Pedros, mais il y a eu aussi un autre projet parallèle avec un groupe qui s'appelle Matriciel. Qui a fait partie aussi de ça, qui était la musique plus progressive. Donc, c'est ça, mon album Le Grand Détour, qui va sortir en février, fait un peu une synthèse de ce que je suis comme artiste. C'est-à-dire que à la base, je suis un artiste country qui a essayé d'autres choses. Et je suis revenu à ces racines-là avec un album. Je suis très enthousiaste, mais en même temps, souvent, mon équipe me dit « Parle-en pas tout de suite, on sort le 18 février. » Mais
18 février, excuse-moi, on est presque à Noël, c'est demain. Hein?
Eh bien oui, absolument. Il va y avoir des surprises sur l'album. J'ai obtenu l'autorisation. Ça, je vais en parler parce que maintenant, c'est officiel. J'ai obtenu l'autorisation du détenteur des droits d'une chanson. On est présentement en studio pour la faire parce que l'album Le Grand Détour est terminé environ depuis novembre, même octobre.
D'accord.
Et on a décidé d'ajouter une chanson lorsque j'ai eu cette autorisation-là. Puis c'est pas de n'importe qui. Je sens même un petit peu des fois la chaleur dans mon cou. Je me dis, j'espère bien la faire. C'est la chanson Tu me montes sa tête de Gilda Roy. Donc, j'espère. En fait, elle va être sur l'album, là, mais on est en train de la peaufiner dans les prochaines journées. Ouais.
Ah ben bravo, félicitations, ça va être un super bel album.
Ah ben je le souhaite, qu'il soit bien reçu. Il y a plusieurs, comme je te dis depuis tout à l'heure, là, je me retiens pour pas te brûler certains punchs de l'album, mais je vais me faire plaisir de toute façon, je m'assumerai avec mon équipe, ne me va dit pas trop parler. Mais
pas trop parler quand t'es invité à la radio, t'es quand même obligé.
Et avec Arlette, en plus.
Je te pose des questions, oui, Arlette, en plus.
Mais blague à part, je ne sais pas si tu te souviens, lorsqu'on s'était rencontrés il y a 2 ans la première fois, j'étais, moi, en plein milieu d'un certain drame personnel.
Oui, tout à fait.
Et ma conjointe, à l'époque, venait de subir un grave accident de la route. Et elle s'en est sortie, évidemment... Maintenant, elle va mieux, elle va bien.
Dieu bénisse.
Oui, oui. Et finalement, tout ça pour dire que la réflexion, lorsqu'elle est revenue à la maison, elle était en chaise roulante et elle avait beaucoup de tristesse, ne plus pouvoir danser. Et j'ai décidé de lui rendre hommage dans le prochain album en créant une nouvelle danse country qui s'appelle La danse de Sophie, Sophie's Dance, qui va être la première chanson de l'album. Et avec Valérie Sirois, qui est animatrice radio dans la région de Sherbrooke, elle a créé cette danse-là pour les gens à mobilité réduite.
Ah, donc, ça, c'est fantastique.
Bien, en fait, la mobilité réduite est un bien grand mot. Ça peut être un problème de hanche, de genou, ça peut être n'importe quoi. Et puis, je suis fier du résultat. On est à la planification du tutoriel de la danse pour expliquer à toutes les écoles de danse du Québec country qui voudront
comment
bien...
Comment ça se fait?
Oui, comment la faire. Il va y avoir un clip qui va l'accompagner aussi. Et là, je travaille fort pour que Sophie accepte de participer au clip, la chanson qui lui est dédiée.
Oui.
Elle a une certaine forme de réticence, mais je pense que je suis en bonne voie de la convaincre.
Il te reste encore un peu de temps.
Oui, absolument. Mais non, c'est la première des choses. Ensuite, c'est ça, ma collaboration sur le dernier album, j'avais chanté une chanson écrite par nul autre que Jeff Smallwood. Oui. Et Jeff m'a écrit une autre chanson. On a tourné le clip ensemble il y a 2 semaines. Donc, ça, j'en suis pas mal fier aussi. Jeff, si tu me permets, j'ai une anecdote à te raconter tout à l'heure.
Vas-y, parce qu'on va arriver après vers la fin. Donc, tu nous racontes l'anecdote.
Jeff vient... comme tu le sais, je suis orthodontiste.
Oui.
Et Jeff,
vient comme client.
Pas lui, mais son garçon. Pour faire une histoire courte, il vient dans mon bureau, puis il prend la guitare, puis il se met à jouer de la guitare, parce que j'avais amené ma guitare au bureau cette journée-là. Puis tous les patients se retournaient, puis me demandaient, mais qui joue bien comme ça? Puis là, je leur ai dit, vous savez, c'est le guitariste de Céline Dion qui est ici. Puis personne ne me croyait. Puis là, Jeff sort de la salle, puis se promène devant tout le monde. Donc, Jeff, j'ai une belle collaboration avec lui. J'ai bien hâte que les gens entendent la chanson qu'il a écrite aussi.
Ah oui, ça va être un super autre bon moment.
Ah, ça, c'est clair.
Et puis, hâte que tu puisses le faire sur scène aussi.
On
dit rien. On lance ce vœu-là en l'air.
Au dieu de la chanson.
Oui, c'est ça. On verra où il redescend et comment il redescend. En tout cas, écoute, c'était toujours un grand plaisir
de
te recevoir. Hein. Tu sais que la porte, elle est ouverte. Tant que je suis là,
gentil.
Tu peux venir quand tu veux. on va terminer cette entrevue avec la chanson Montagne russe, justement. On n'a pas vraiment eu le temps de parler de ton autre groupe, mais c'est toujours un petit peu court. Mais vous continuez ensemble quand même?
Oui, absolument. On se parlera de la fameuse bière, parce que tu sais que la bière que tu parlais tout à l'heure, c'était pour aider les animaux de la SPCA. On a remis les profits à la SPCA de l'Outaouais pour aider les animaux, donc on en reparlera.
D'accord, alors tu reviendras en parler pour ça, parce qu'elle était forte, mais bonne. En tout cas, elle a été appréciée ici. Je te le dis.
Mais elle était anti-COVID.
Oui, ça nettoyait les conduits, si je peux me permettre. Donc, on va partir avec ta chanson, n'est-ce pas? On va l'écouter. Alors, c'est parti.
Fin de relation, père de glaciation. Je déborde d'émotion, un étrange tourbillon. Tu m'as plu et m'as séduit. Aujourd'hui tout est fini. Pour moi c'est une déception, mais aussi une libération. Solide sur mes pieds. bien heureux de retrouver ma liberté regrettée. Quand je veux voir la lumière en être inondé, lueur d'espoir, nouvelle romance, j'ai l'impression que ma vie recommence. Oui, la vie avec toi est une montagne russe, moi je suis passager de ton wagon. Ce wagon qui a du rail. Oui, la vie avec toi est une montagne russe, moi je suis passager de ton wagon. Oui, la vie avec toi est une montagne russe, tout va vite et lentement en même temps. Oui, la vie avec toi est une montagne russe, moi je suis passager de ton wagon.
Les montagnes russes, ça t'a rappelé des souvenirs?
Et
la prochaine fois, si jamais tu reviens et pour présenter autre chose, ça nous fera plaisir d'entendre ce nouvel album que tu feras. Donc un dernier petit mot avant que je dise au revoir à Thibaut à toi.
Oui, je vous remercie pour l'invitation et j'invite tous les auditeurs, si vous pouvez juste écouter la chanson Noël, oui. Noël. Ne vous gênez pas pour la télécharger,
allez-y.
S'il vous plaît.
Allez-y. D'abord, parce qu'elle est très belle et qu'elle vous fera danser. Et ensuite, c'est un beau geste. Voilà, pour ceux qui ont faim, qui ont besoin. Et tout au long de l'année, répétons-le. Donc, merci beaucoup, Martin Valois. Merci à Thibaut de Corta. Merci, Maurice Bolduc, pour la technique et les chansons. Et puis là, comme c'est le moment, on vous souhaite un bon week-end. Parce que moi, je suis encore là la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi. Et après, ça sera joyeux Noël et bonne année pour qu'on se retrouve en 2022, qui va être 2022. Je me dis quand même qu'avec des chiffres pareils, Martin, ça peut être qu'un bon moment quand même, non? Moi, je l'espère de tout mon cœur. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. En attendant, préparez bien vos cadeaux, vos repas, vos liens d'amitié, parce qu'on a quand même le droit de voir un petit peu les amis quand même, hein. La famille surtout. Alors profitez-en. À tout bientôt. Excellent week-end. À lundi. Même endroit. Même endroit. Même endroit. J'en bégaye et même heure. Au revoir.